Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Martial Libéra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut universitaire de technologie Robert Schuman de l'Université de Strasbourg et vous avez dirigé avec Sylvain Schirmann la rédaction du livre « Idées reçues sur l'Union européenne » aux éditions Le Cavalier Bleu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'Europe. On entend répéter que le Parlement européen n'a pas de pouvoir, que la Commission impose sa dictature, que l'Europe est ultralibérale, qu'elle détruit notre modèle social. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Une douzaine de spécialistes répondent dans le livre. Alors, commençons par, j'ai envie de dire, par un slogan, parce qu'on l'entend sans cesse répéter, l'Europe, c'est la paix. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai que la paix était et est un des objectifs essentiels de l'Europe communautaire. À ses débuts, lorsqu'elle est lancée par la déclaration Schuman le 9 mai 1950, l'Europe est confrontée à cette problématique de la paix. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous vous apercevez, quand vous regardez l'histoire de la construction européenne, que, en fait, tout est fait à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire entre les pays membres, pour éviter une guerre. L'obligation d'avoir un régime démocratique, l'obligation aussi, évidemment, de respecter les droits fondamentaux, les droits de l'homme, un système de relations entre les États membres qui est nourri par les négociations, le compromis, le refus de l'arbitraire, et puis aussi, on peut le dire, des politiques européennes qui consolident considérablement les interdépendances entre les Européens. Et au total, on peut dire que l'Europe, c'est effectivement la paix entre ses États membres. Mais cette paix n'est pas la fille de la construction européenne au niveau international. La paix qui se met en place à partir de 1945 est davantage due ou davantage la conséquence de la guerre froide, qui se traduit par un équilibre précaire entre deux blocs opposés, d'un côté le camp occidental, de l'autre côté le bloc soviétique. Et puis il y a d'autres éléments aussi qu'on met finalement assez peu souvent sur la table. À l'intérieur même de l'espace européen, les pays communautaires défendent un certain nombre de valeurs. Mais ces valeurs-là, les Européens, enfin certains États européens, en particulier la France, la Belgique, ne les défendent pas à l'extérieur, en particulier au moment des guerres de décolonisation qui débutent avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'achèvent pour ces pays dans les années 60. Et puis, il y a aussi une question qui se pose à propos de l'Europe et de la paix. Est-ce que l'Europe est capable d'empêcher les guerres, notamment à ses frontières ? Et la réponse est ici globalement négative. Les Européens ont du mal à faire en sorte que la paix advienne autour d'eux. C'est le cas à Chypre en 1974, c'est le cas en Yougoslavie dans les années 90, et puis plus près de nous, c'est ce qu'on observe également en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée en 2014, et puis évidemment depuis la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis 2022. Alors au total, on s'aperçoit que l'Europe est effectivement un facteur de paix, mais que face aux menaces actuelles, elle doit opérer un saut qualitatif dans sa politique extérieure, dans sa politique de défense, et ce saut qualitatif qui passe notamment peut-être par moins de dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, est aujourd'hui la condition essentielle pour que les Européens puissent continuer à vivre en paix.
Autre question, Martial Libéra, parce qu'on l'entend beaucoup dire, l'Union européenne ne serait pas une démocratie, la Commission européenne imposerait sa dictature. Alors, est-ce que c'est une idée reçue, ça, d'après vous ?
La Commission européenne n'impose pas, entre guillemets, sa dictature. Alors, peut-être pour démêler le vrai du faux, faut-il revenir là encore aux sources de la construction européenne et parler de la communauté européenne du charbon et de l'acier, au sein de laquelle avait été instituée une haute autorité qui est en quelque sorte l'ancêtre de la Commission européenne. Et cette haute autorité, puis ensuite la Commission européenne, représente en fait l'intérêt général européen, en même temps qu'il constitue une sorte de pouvoir supranational. Et lorsqu'on en regarde le rôle actuel de la Commission européenne, ce rôle est double. Il s'agit d'une part de proposer des actes législatifs qui sont adoptés par d'autres instances européennes, on en parlera après. Et puis ensuite, il s'agit, lorsque ces actes sont adoptés, eh bien, la Commission européenne est chargée de les mettre en œuvre. Mais la Commission européenne n'agit pas seule. Elle agit entourée d'autres instances. Je voudrais juste citer les trois principales qui expliquent, ce qui nous permettra de comprendre comment les institutions européennes fonctionnent, en tout cas la prise de décision. Il y a d'abord un Conseil européen qui est composé des chefs d'État et de gouvernement, qui se réunit plusieurs fois par an, et qui lui donne les grandes directions stratégiques à l'Union européenne. À partir de ces directions stratégiques, le Conseil européen donne des fiches de route à la Commission européenne. Alors ce Conseil européen, vous voyez, c'est le pouvoir interétatique. Et lui donne en quelque sorte une feuille de route à la Commission européenne. Puis ensuite, lorsque la Commission européenne travaille, prépare ses actes législatifs, eh bien, il faut ensuite que ces actes législatifs soient approuvés globalement par deux instances. D'une part, le Conseil de l'Union européenne, qui est une espèce de chambre basse au sein de laquelle les intérêts des États sont représentés. Et d'autre part, par une instance qui prend de plus en plus d'importance, qui est le Parlement européen, élu au suffrage universel direct depuis 1979, et qui, au fond, incarne le point de vue des citoyens européens.
Eh bien, on va justement parler du Parlement européen, pour lequel on votera hein, dans un mois. Mais d'abord, on fait une pause, Martial Libera.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï. Martial Libera est notre invité ce matin. Il est professeur d'histoire contemporaine et avec Sylvain Schirmann, il publie « Idées reçues sur l'Union européenne » aux éditions Le Cavalier Bleu, un petit livre tout à fait d'actualité puisqu'il parle notamment du Parlement européen. Or, on va voter pour les députés européens dans un mois. Ce Parlement, est-ce que c'est une assemblée sans pouvoir, comme souvent on nous le dit ?
Oui et non. En fait, ce qui choque lorsque l'on parle du Parlement européen, c'est que celui-ci est élu au suffrage universel, et il est donc doté de la plus haute légitimité démocratique au niveau européen, mais que parallèlement, il ne dispose pas de tous les pouvoirs qui devraient découler du principe de la souveraineté populaire, et en particulier, il ne dispose pas du pouvoir de proposer des lois. Alors, après le traité de Maastricht, adopté en 1992, eh bien, le Parlement européen obtient un pouvoir législatif d'importance, puisque, en fait, les actes législatifs proposés par la Commission européenne sont presque tous, aujourd'hui 90% d'entre eux, le fruit d'une codécision entre le Conseil de l'Union européenne, qui représente les intérêts des États, et le Parlement européen. C'est-à-dire que le Parlement européen est saisi pour pratiquement tous les actes législatifs de l'Union européenne et qu'il faut que son vote soit positif. Et puis, le Parlement européen est aussi progressivement investi d'une sorte de vote d'investiture, c'est-à-dire qu'il est chargé d'approuver la nomination de la Commission dans son ensemble. Et on assiste ainsi à une parlementarisation du système institutionnel européen, avec depuis 2014 l'évolution du Spitzenkandidat, c'est-à-dire que normalement, la personne qui a dirigé la campagne d'un des grands groupes du Parlement européen, si ce groupe arrive en tête des élections, est nommé, en tout cas proposé à la nomination de président ou de présidente de la Commission européenne. Alors, évidemment, ce qui manque aujourd'hui, et ce sur quoi on insiste souvent, c'est que le Parlement européen n'a toujours pas le pouvoir d'initiative législative. Mais il faut quand même dire que s'il ne peut pas directement proposer des lois, il peut échanger avec la Commission européenne et suggérer à la Commission européenne de présenter des propositions de lois qui vont dans le sens où il a travaillé. Autre faiblesse actuelle du Parlement européen, il est exclu d'un certain nombre de décisions qui se prennent à l'unanimité. décisions souvent de politique étrangère, mais pas uniquement. Et puis le dernier point sur lequel le Parlement, enfin les pouvoirs du Parlement achoppent ou qui crispent un petit peu les gens, en tout cas qui frappent les esprits, c'est qu'il n'y a toujours pas de législation harmonisée à l'ensemble des pays de l'Union européenne pour les élections au Parlement européen. Alors même, et c'est un peu ça le paradoxe, que lorsqu'elle a été élue présidente du Parlement européen en 1979, Simone Veil, dans son discours, avait clairement expliqué que le travail de cette première mandature de ce nouveau Parlement européen serait justement de parvenir à l'harmonisation de la législation européenne pour les élections. Voilà.
Martial Libera, il nous reste juste deux minutes. Une question encore, peut-être une idée reçue, vous allez nous le dire, à votre avis, l'Europe déconstruit-elle notre modèle social, comme on le répète souvent ?
Sur la question sociale, il y a une sorte de quiproquo entre le rôle des États et celui de l'Europe communautaire. Là encore, un retour dans la moyenne durée historique, c'est-à-dire après 1945, nous donne un certain nombre d'éclairages très utiles. Après 1945, au fond, ce sont les États qui sont en charge de la politique sociale à travers ce qu'on a appelé l'État-providence. C'est la généralisation de la couverture sociale pour faire face à tous les aléas de la vie, la santé, l'emploi, la vieillesse, c'est la mise en place de la cogestion, c'est la place importante accordée aux services publics, notamment l'accès à l'éducation, à la formation, l'hôpital public. C'est aussi le fait que en Europe, eh bien, il y a des mécanismes de redistribution sociale qui sont extraordinaires et qui font que cette région, l'Europe, est très clairement celle dans le monde où le système social est le plus protecteur. Alors ça, c'est le départ. Ensuite, lorsque l'Europe est créée, avec la première communauté européenne, celle du charbon et de l'acier, la CECA, eh bien on voit que la CECA se greffe sur cette politique européenne des États. La CECA met en place un système de construction de logements sociaux. Elle permet l'harmonisation des conditions de travail des ouvriers du charbon et de l'acier. Elle associe les syndicats de ces domaines à son comité consultatif. Et puis ensuite, eh bien, les avancées sociales continuent de se faire au niveau national par une confrontation entre les centrales syndicales et le pouvoir politique. Au niveau européen, ce à quoi on assiste à partir des années 70, c'est au fond, là encore, une réplique. C'est-à-dire qu'en 1973 est créée la Confédération européenne des syndicats, qui est une instance chargée de défendre les intérêts des travailleurs face à la communauté économique européenne. Mais ensuite, il y a un certain décalage. C'est-à-dire qu'en 1975, la communauté économique européenne crée le Fonds européen de développement régional qui vise à lutter contre les inégalités, mais sur le plan géographique, entre les différentes régions de la communauté économique européenne. Alors, après, c'est là où on assiste à une espèce de naissance un petit peu de cette idée reçue sur le fait que l'Europe déconstruirait le modèle social, qui n'est pas entièrement fausse. C'est qu'à partir de 1990, à partir du traité de Maastricht, de la naissance de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit que l'Union européenne encourage toujours un certain nombre d'avancées. Par exemple, elle met en place une forme de cogestion au sein de l'Union européenne, puisque lorsque le CES discute avec l'organisation patronale européenne Business Europe, eh bien cela peut donner lieu à des directives, dans le cas d'un accord entre ces deux parties, mais il y a aussi un certain nombre de reculs. Et ces reculs, notamment ce sont ceux qui sont consécutifs à la mise en place des critères de convergence au moment où on met en place la monnaie unique, eh bien l'imposition de ces critères de convergence, en particulier dans le domaine du déficit, de la dette, de l'inflation, conduit dans les États membres un certain nombre de reculs des politiques sociales, avec l'allongement de la durée du travail, le recul de l'âge à la retraite, une politique plus restrictive en termes de rétribution du chômage, etc.
Merci Martial Libéral, je vous interromps. Je rappelle le titre de votre livre, Idées reçues sur l'Union européenne. Ça vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu.